En Europe et aux États-Unis, environ un mariage sur deux finit en divorce, et ces chiffres ne tiennent pas compte des couples où les conjoints restent ensemble pour une raison ou pour une autre, souvent à cause des enfants, mais se côtoient à peine. Puis il y a ceux qui vivent à la colle un certain temps, puis se quittent, fréquemment parce que l'un a trompé l'autre. Chacun de ces cas de figure génère bien des douleurs. Par son mariage avec Gomer, qui est devenu adultère, le prophète Osée a illustré dans sa vie et dans sa chair l'expérience de l'Éternel avec Israël Nord, qui a rejeté le seul Dieu vivant et vrai au profit des idoles muettes et impuissantes. Le prophète accuse donc les Israélites, du plus petit au plus grand, de se prostituer aux idoles avec tout ce que cette dévotion abominable implique. Et quand il prononçait ces paroles, elles étaient cinglantes, car ayant lui-même vécu une expérience particulièrement douloureuse, il savait de quoi il parlait. Le chapitre 5 continue le précédent en dénonçant les fautes grossières du royaume des 10 tribus du Nord et surtout en annonçant la venue du châtiment. En conséquence, ce n'est pas une partie réjouissante des Écritures qui s'ouvre devant nous. Je commence à lire le chapitre 5. « Écoutez ceci, prêtres, et soyez attentifs, gens d'Israël, et vous aussi, gens de la cour du roi, car il vous incombait de rendre la justice, mais vous avez été à Mitzpah comme un piège, sur le Tabor comme un filet tendu. » Verset 1. Tabor était une montagne qui dominait la vallée de Jizréel, une localité dont il a été question dans le chapitre précédent. Ce haut sommet se trouvait à environ 20 km au sud-ouest de la mer de Galilée. C'était un haut lieu de l'idolâtrie cananéenne reprise en cœur par les Israélites. Quant à Mitzpah, c'était aussi un centre de culte idolâtre. D'ailleurs, en hébreu, ce nom fait assonance avec justice afin de bien contraster ces deux mots. Cela dit, en Israël Nord, il y avait deux villes qui portaient le nom de Mitzpah. L'une se trouvait à Galaad et était le sommet le plus élevé du territoire des 10 tribus à l'est du Jourdain. L'autre Mitzpah se trouvait dans le royaume de Juda, dans la tribu de Benjamin, à 13 km au nord de Jérusalem. À l'époque d'Osée, c'était un haut lieu de culte d'Astarté, déesse de la fécondité, et considérée comme l'épouse de Baal. Comme le prophète parle ici d'Israël Nord et qu'il met le mont Tabor en parallèle avec Mitzpah, il a un autre sommet en vue et donc parle de Mitzpah en Galaad. De toute façon, que ce soit un lieu ou un autre, l'idée est la même. L'idolâtrie était répandue partout des deux côtés du Jourdain ou du nord au sud. Bien que tous les Israélites aient été coupables, le prophète s'adresse d'abord aux prêtres et à la famille royale parce que, ayant entraîné le peuple à l'idolâtrie, ils étaient les premiers responsables. En effet, d'une part, ils avaient édifié des sanctuaires dédiés aux idoles d'un bout à l'autre du territoire d'Israël, et d'autre part, ils y participaient. Osée reproche donc au chef qu'en favorisant l'idolâtrie, non seulement ils n'avaient pas rempli leur rôle de protecteur, mais étaient devenus pour le peuple un piège ou un filet tendu, c'est-à-dire des instruments de mort. Selon le point de vue des Écritures, les personnes qui occupent une position d'autorité ont à charge d'être des exemples dignes pour les autres. Mais si on le cherche parmi les hommes politiques ou du monde des affaires ou de l'audiovisuel, on peut toujours chercher. On sera le bec dans l'eau pendant longtemps. Je continue le texte. « Des infidèles ont creusé une fosse profonde, mais je vais préparer une correction pour eux tous. » Verset 2. Osée continue l'idée précédente. Après le filet tendu et le piège, il mentionne maintenant une fosse profonde. Le prophète s'adresse toujours aux responsables de la nation qu'il accuse d'infidélité par rapport à la loi de Dieu. En favorisant des cultes illicites, les chefs et les prêtres y ont entraîné le peuple, travaillant ainsi à sa perte. Ils sont comparés aux chasseurs qui cherchent, au moyen de divers stratagèmes, à prendre du gibier. Cependant, la situation ne va pas durer, car l'Éternel va juger son peuple, à commencer par ses chefs. Je continue. « Je te connais bien, Éphraïm. Israël ne peut se cacher de moi. Or, Éphraïm, tu t'es prostitué. » Et Israël en est souillé. Verset 3. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, Éphraïm est un autre nom pour le royaume des 10 tribus du Nord et Israël désigne cette même nation. La juxtaposition des deux noms est une forme poétique qui permet à ceux qui écoutent Osée de se rappeler ses paroles. Mais cette répétition a aussi pour but de mettre en évidence la culpabilité de ce royaume israélite. Le dualisme « prostitué » et « souillé » a également pour effet d'insister sur le péché d'Israël Nord. Le prophète parlait de problèmes très graves et annonçait un jugement qui signifierait la fin de ce royaume. Osée ne s'attendait pas à une repentance de la part des responsables du peuple. Par contre, beaucoup d'Israélites parmi ce peuple ont pris ces paroles à cœur et sont allés se réfugier dans le royaume de Juda. Je continue. Leurs actes les empêchent de revenir à moi, leur Dieu, car un vent de prostitution souffle chez eux et ils ne connaissent pas l'Éternel. Verset 4. Précédemment, et en parlant de la divination, Osée a dit qu'un vent de prostitution les fait errer. Ils s'égarent loin de leur Dieu en se prostituant. En hébreu, le même mot désigne vent et esprit, et souvent l'un peut se substituer à l'autre. Il est quasi certain que le prophète joue sur ce double sens. Le vent est un élément extérieur, tandis que l'esprit est un état intérieur. Israël est tellement corrompu qu'il est comme enveloppé à la fois de l'extérieur et de l'intérieur par la prostitution. La gravité de cette situation est soulignée par le prophète qu'en parlant au nom de l'Éternel, il dit que « leurs actes les empêchent de revenir à moi, leur Dieu ». Lorsqu'un homme persiste dans le péché, celui-ci finit par imprégner sa mentalité, ses pensées et sa façon d'agir. Il en devient esclave, mais souvent il ne s'en rend même pas compte car sa conscience est comme sclérosé, rendant impossible tout retour à Dieu. Cela dit, il faut quand même nuancer. On sait que Napoléon Ier a dit « impossible n'est pas français », mais il a quand même perdu la bataille de Waterloo et atterri à Sainte-Hélène. On dit aussi qu'à l'impossible, nul n'est tenu parce que cela fait partie de la condition humaine. Par contre, ce mot n'existe pas dans le vocabulaire divin. Au moment de l'Annonciation, l'ange Gabriel a dit à Marie que « rien n'est impossible à Dieu ». Et en parlant du salut, Jésus a dit à ses disciples « ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Dans le cas des Israélites du Nord, Dieu a décidé de les abandonner. Dans le chapitre précédent, il a dit « le peuple d'Éphraïm s'est lié aux idoles, qu'il aille son chemin ». Mis à part ceux qui se réfugieront chez leurs frères du Sud, les Israélites partis en exil se mélangeront à la masse des peuples sous domination assyrienne et disparaîtront. Quant aux plus pauvres qui seront autorisés à rester dans leur pays, ils seront également dilués avec d'autres groupes ethniques qui viendront s'installer dans le vide créé par les déportés. Je continue le texte. Mais l'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Or, Israël et Éphraïm tomberont par leur faute. Même Juda va tomber avec eux. Verset 5. Le texte dit littéralement « l'orgueil d'Israël témoigne contre sa face ». C'est souvent dans l'expression du visage qu'on dénote l'arrogance et l'impudence. La racine de l'idolâtrie et de tous les autres péchés d'Israël est l'orgueil, la suffisance et la proclamation de son indépendance vis-à-vis de Dieu. Cette attitude joue le rôle d'un témoin dans un tribunal est certes ici à ratifier la condamnation et le jugement de la nation coupable. Conformément à ce que l'auteur d'un proverbe a écrit, Israël Nord allait expérimenter que l'orgueil précède le désastre et un esprit arrogant précède la chute. Malheureusement, le royaume des 10 tribus ne sera pas le seul à subir le jugement divin, car les habitants de Juda aussi s'associaient déjà en partie au péché de leurs frères du Nord, et surtout en s'adonnant à des pratiques idolâtres, et la situation ne fera qu'empirer, malgré des sursauts spirituels ici et là, grâce à l'influence de quelques rois qui étaient pieux. Finalement, Juda tombera sous les coups de butoir des Babyloniens et sera déporté. Même rébellion contre l'Éternel, même punition. Je continue le texte. Avec leurs moutons et leurs bœufs, ils viennent chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront pas. Il est parti loin d'eux. Verset 6. Littéralement, le texte est plus rude car il est écrit « Il s'est dépouillé d'eux ». Donc un peu comme quand on se débarrasse d'un vêtement crasseux, teigneux. Quand les Assyriens vont commencer leur conquête, les Israélites vont vite se rendre compte qu'ils sont faits comme des rats et que leurs idoles ne leur sont d'aucun secours. Alors ils vont se souvenir du Dieu de leurs ancêtres et invoquer l'Éternel au moyen de sacrifices. Mais ce culte hypocrite leur vaudra une fin de non-recevoir de la part de Dieu, car les dés sont jetés depuis déjà longtemps. Dès le tout début de son ministère, Ésaïe, qui était contemporain tardif du prophète Osée, exprime le même désaveu divin, mais envers Juda et d'une manière plus développée. Je lis le passage. « Que peut bien me faire vos nombreux sacrifices, dit l'Éternel, car je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse de bêtes à l'engrais. Je ne prends pas plaisir aux sacrifices de taureaux, d'agneaux comme de boucs. Quand vous venez pour vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis? Cessez de m'apporter d'inutiles offrandes, j'ai l'encens en horreur. » Quant aux nouvelles lunes, au sabbat et aux assemblées, je ne veux plus de ces rassemblements de cultes de gens qui font le mal. Oui, vos nouvelles lunes, toutes vos fêtes, je les déteste. Elles sont un fardeau pour moi. Je suis las de les supporter. » Fin de citation. Dans le fond, nous ne valons pas mieux que les Israélites, car pour beaucoup d'entre nous, se tourner vers Dieu est un comportement de la dernière heure, quand tout est perdu et quand il n'y a plus d'espoir. Au début des traversées transatlantiques, il n'était pas rare qu'un navire heurte une montagne de glace et alors la situation pouvait rapidement tourner à la catastrophe. Au large de Terre-Neuve, un de ces paquebots entra en collision avec un iceberg. Le choc fut violent. Quelques minutes plus tard, les haut-parleurs répartis sur le navire donnèrent de la voix et tout le monde put entendre le capitaine dire « Priez ! Que tout le monde prie !» Une femme se rua alors vers lui et lui demanda « Capitaine, en sommes-nous vraiment à ce point-là » Quand la médecine a fait tout ce qui était en son pouvoir et que l'état du malade ne s'améliore pas, on entend quelquefois dire « Il n'y a plus qu'à prier !» Ou encore « Si vous croyez en Dieu, c'est le moment, sous-entendu, de prier !» Mais les médecins répugnent à le dire parce que ça fait pas sérieux, scientifique ou que sais-je encore. On traite Dieu comme s'il était une roue de secours qu'on garde dans un coin au cas où, tout en espérant ne pas avoir à s'en servir. Pourtant Dieu n'est pas rattaché à police secours ou au service d'urgence. Dieu veut qu'on l'honore chaque jour de notre vie, que les choses aillent mal ou bien. Alors, quand une tuile me tombe sur la tête, je peux l'invoquer en toute bonne conscience, ce n'est pas un appel hypocrite. Je continue le texte. « Car ils ont trahi l'Éternel, ils ont enfanté des bâtards. Le jour de la nouvelle lune va maintenant les consumer, eux et leur patrimoine. » Verset 7. Le mot hébreu pour « trahir » exprimait la violation d'un serment, d'un contrat, d'une amitié de longue date ou d'un engagement marital. Comme une femme trompe son mari, les Israélites ont trahi l'Éternel en abandonnant son alliance et en se consacrant corps et âme aux idoles. Dieu appelle leurs enfants bâtards parce que soit leur naissance a été demandée et attribuée à Baal ou à Astarté, des divinités censées régir la fertilité, soit ils sont nés suite aux accouplements honteux qui se pratiquaient avec les prostituées sacrées dans tous les sanctuaires idolâtres du royaume. À cela s'ajoute le fait que, contrairement à ce que la loi de Moïse ordonne, les parents n'ont évidemment pas enseigné à leurs enfants à vénérer l'Éternel. Au contraire, dès leur plus tendre enfance, ils ont été présentés et consacrés aux faux dieux. L'état spirituel et moral de la nation était catastrophique. Au moment des nouvelles lunes, avaient lieu des festivals religieux. C'était donc des jours de fête et de réjouissance. Mais ces jours vont se changer en ténèbres et en détresse à cause des châtiments divins. Les Israélites savaient à quoi s'en tenir, car dans les livres de la loi, l'Éternel explique en détail ce qui leur arrivera s'ils abandonnent leur Dieu. Je continue à lire le texte du prophète Osée. « Sonnez du cor à Gibéa et de la trompette à Rama. Donnez l'alarme à Beth-Aven. Benjamin, gare à tes arrières. Éphraïm sera dévasté au jour du châtiment. J'en fais l'annonce aux tribus d'Israël et cela est certain. » Versets 8 et 9. On sonnait du cor pour les fêtes, mais aussi pour rassembler les hommes qui partaient en guerre, ce qui est le cas ici. Par contre, ce qui est curieux est que l'ennemi vient non pas du nord comme d'habitude, mais du sud. En effet, Gibéa et Rama se trouvaient dans le territoire de Benjamin, qui faisait partie du royaume de Juda. Gibéa était située à environ 4 km au nord de Jérusalem, Rama à 9, et la troisième ville, Beth-Aven, ainsi surnommée par le prophète, était un sanctuaire idolâtre qui se trouvait à une bonne vingtaine de kilomètres de Jérusalem, mais dans le territoire d'Israël nord. Ces trois villes étaient en ligne droite. Ce verset fait référence à une guerre entre les deux royaumes. Dans la première moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ, Israël nord, allié aux Syriens, a envahi une partie du territoire de Juda. Je lis un passage. Sous le règne d'Akaz, fils de Jotham et petit-fils d'Ozias, roi de Juda, Retsin, roi de Syrie, se mit en campagne avec Pekah, fils de Remaliaou, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer. Mais ils ne purent la vaincre. Cette attaque poussa Akaz à chercher de l'aide auprès des Assyriens qui sautèrent sur l'occasion pour envahir le nord de la Palestine. Leur arrivée obligea Israël nord et les Syriens à se retirer de Juda afin de faire front aux Assyriens. Alors, en fin stratège, le roi Akaz exploita cette situation, d'une part pour récupérer les villes du territoire de Benjamin qui lui avaient été prises par Israël nord, et d'autre part pour s'étendre aux dépens du royaume des 10 tribus, en lui prenant sa partie sud, dont la ville de Bethel, alias Beth-Aven. Plus loin, le prophète reproche au chef de Juda d'avoir profité de l'aubaine pour s'emparer d'une partie d'Israël nord. La tribu de Benjamin était mal placée parce qu'elle faisait tampon entre les deux royaumes. En effet, les allées et venues des armées d'Israël nord et de Juda sur son territoire furent accompagnées de massacres fratricides. Cependant, ce qui lui est arrivé n'est qu'un avant-goût de ce qui se produira lors de l'invasion de la Palestine, d'abord par les Assyriens et plus tard par les Babyloniens. C'est à ces malheurs sans précédent que le prophète fait allusion quand il écrit « Éphraïm sera dévasté au jour du châtiment ». Je continue le texte. Les princes de Juda sont devenus pareils à ceux qui déplacent les bornes. Aussi, comme un torrent, je répandrai sur eux les flots de ma colère. Verset 10. Selon la loi de Moïse, il était absolument interdit de déplacer la borne qui délimitait sa propriété avec celle de son voisin. Cet acte malveillant était assimilé à du vol et encourait la malédiction de Dieu. Mais c'est exactement de cette façon que le royaume de Juda s'est conduit. En effet, et comme je l'ai dit précédemment, Juda a tiré profit de l'invasion du nord de la Palestine par les Assyriens pour attaquer le royaume des 10 tribus occupées à se défendre et rogner la partie sud de son territoire. Dieu désapprouve cette attitude mesquine, ce qui veut dire que Juda ne restera pas impuni. Et en effet, le châtiment est arrivé alors qu'Ézéchias régnait sur ce royaume, et pourtant c'était un roi fidèle à l'Éternel. Mais au fil des siècles, Juda avait déjà accumulé un gros contentieux devant Dieu, dont des pratiques idolâtres. Tout comme son voisin du nord, il fut envahi par les Assyriens et les Israélites du sud ne durent leur salut qu'à une intervention miraculeuse de l'Éternel, précisément parce que leur roi était juste aux yeux de Dieu. Par l'intermédiaire de ses prophètes, l'Éternel, dans sa justice, ne cessait pas d'annoncer la venue du châtiment. Mais d'autre part, dans sa miséricorde, il n'arrêtait pas de remettre ce jugement à plus tard. Oui, mais tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Les Israélites du sud ont trop tiré sur la corde et finalement, ce sont les Babyloniens qui ont mis fin à leur indépendance politique et religieuse. Dieu est patient et encore patient, mais le jour où sa patience prend fin, plus rien ne peut arrêter sa juste indignation de se déchaîner sur les pécheurs non repentants.